bien.
Je
pense que vous avez dû comprendre qu'on n'est pas encore arrivé. On est juste à mi-chemin.
Quoi ?
Maman a interrompu le cours de notre voyage. Il me semble qu'elle est... intercepté une émission d'origine inconnue. Elle nous a réveillés pour qu'on vérifie.
Une émission extérieure ?
Ouais.
Mais quel genre d'émission ?
C'est un signal sonore qui se répète à intervalles réguliers de 12 secondes.
Un SOS ?
J'en sais rien.
Humain ?
Inconnu.
Mais quel genre d'émission ? Humain ?
Divergence FM.
Inconnu.
Et bonjour à tous et bonjour à toutes, une émission inconnue mais pour les humains, c'est l'Auberge Espagnole sur le 93.9 de Divergence FM, l'Auberge Espagnole qui fait sa rentrée. On est ravis de vous retrouver, vous qui nous écoutez de l'autre côté de Le Poste, avec c'est de l'actualité, avec une émission spéciale autour du Mali, puisque Issa Jazz Pré Koulibaly, ancien animateur de Radio Tabalé à Bamako au Mali, vient d'arriver hier soir à Montpellier. Issa, bonjour.
Bonjour Gilles.
Alors on t'avait reçu déjà il y a quelques temps, c'était il y a deux ans.
Deux ans de cela, ouais.
Voilà, c'était il y a deux ans, bien avant ce triste printemps au Mali qui a vu le début des événements, on va dire ça comme ça, et qui aujourd'hui suscite l'attention de toute la communauté internationale, puisque on est à deux doigts d'une intervention militaire pour arrêter le massacre, un petit peu qu'il s'agisse des êtres humains à qui on coupe des mains et des pieds. Quand on les
la charia.
Voilà, quand on les tue pas tout simplement, ou pour le patrimoine mondial de l'humanité, puisque à Tombouctou les destructions de temples ou de mausolées ont continué, une situation évidemment qui est tragique, dramatique, mais qui suscite des réactions partout dans le monde, et puis l'inquiétude aussi, l'inquiétude de voir le Mali qui avait été un exemple de démocratie en Afrique subsaharienne et qui aujourd'hui est dans les turpitudes. Alors on s'est fait l'écho avec Thiemo Kokone, le directeur de Radio Tabalé, au printemps, un petit peu assez régulièrement, de ce qui se passait là-bas et de la façon dont lui pouvait percevoir ce qui se passait. Comment toi tu as vécu un petit peu ces derniers 6 mois?
Voilà, c'est un réel plaisir pour moi d'être ici avec vous et partager également ce que j'ai vécu et tout, et que mes compatriotes sont en train de vivre actuellement des moments très difficiles, parce qu'on ne s'entendait pas à une telle situation de la part d'un grand pays comme le Maliba, un pays démocrate, un pays exemplaire et qui a vraiment abrité pas mal de conférences à Bamako pour plus de paix dans des pays voisins, parce que le Mali, comme on connaît, c'est un pays chaleureux d'accueil et de djatiguia, comme on le dit. Et donc, franchement, la situation, elle est vachement malvenue, et on était à deux doigts vraiment des élections. On s'était dit que les élections allaient très bien se passer, parce qu'il faut dire, avant, on a vraiment fait une conférence avec ATT en son temps, quand il était là, le Festival des Ondes et Liberté, on en parlait. Oui. La situation actuelle et comment se tenir face à un micro. Il faut vraiment donner de bonnes informations à la population pour qu'elle puisse voter et normalement. Il ne faut pas vraiment perturber les gens dans les informations. Il faut donner franchement la bonne information pour vraiment aller vraiment de l'avant aux élections qui allaient se faire. Et du coup, il y a eu un coup d'état. On ne s'entendait pas vraiment à ça. Et il faut dire que vraiment la population est vraiment en danger. Parce qu'on vit dans l'inquiétude et les gens n'arrivent pas à manger comme il le faut et tout devient cher. Et vraiment, c'est chaud pour ceux qui sont pauvres et ceux qui en ont, vraiment, il n'y a pas d'inquiétude pour ce côté-là, mais quand même, nous, on vit vraiment dans l'inquiétude. Parce qu'à tout moment, elle peut déclencher au sein de Bamako. Et du coup, moi, en tant qu'ancien animateur, j'ai été persécuté, il faut le dire, à l'antenne, parce qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire. Et que si on se permettait de le dire, directement, on était vraiment tabassé par les militaires. Puisque c'est eux qui ont pris le pouvoir. Et on n'est pas d'accord pour cela, mais bon. Voilà.
Voilà, on aura l'occasion de revenir sur ce conflit qui a démarré en quelque sorte sur, on va dire, le mécontentement d'une partie de l'armée suite à la non-gestion du problème dans le Nord Mali. Mm-hmm. Le Nord Mali qui, finalement, à l'occasion de ce putsch interne au Mali, le Nord Mali qui est devenu un petit peu la cible des djihadistes, enfin des salafistes, enfin qui finalement aujourd'hui ont pris leur position, même si aujourd'hui le sud Mali est relativement préservé, y a quand même une libre circulation des représentants des groupes islamistes du Nord. La situation est quand même un petit peu électrique, j'imagine, sur place. Alors, lors de cette heure d'émission, on aura dans quelques instants, comme quoi, même à Montpellier, on parle pas mal du Mali cette semaine, puisque le cycle des palabs africaines organisé par l'association Survie Languedoc-Roussillon va redémarrer ce samedi 27 octobre de 16 à 19h à l'espace Martin Luther King pour parler justement du conflit armé au Nord Mali, ses origines, les enjeux d'une intervention militaire africaine entre guillemets prônée par le président François Hollande et pas que. Ce sera donc ce samedi. Et puis demain au Club de la Presse, tu feras partie des intervenants qui animeront cette soirée débat Le Mali et bien l'information. Sûr. L'entrée est libre et ouverte à tous demain à partir de 19h au Club de la Presse, où il y aura aussi Moulay Edara, représentant du réseau radio AADAR du Nord Mali, représentant de RNW, radio néerlandaise du Mondial, et puis partenaire d'RFI aussi, de la BBC ou de Voice of America. Il y aura Martin Vogel, correspondant à la BBC et à l'AP au Mali jusqu'en juin dernier, et puis toi-même, pour parler, on va dire, de l'enjeu géostratégique négligé que représente le Mali, quels enjeux pour les pays voisins et la communauté internationale, quel avenir pour le pays. Le Mali, les informations difficiles à obtenir, qui couvre l'actualité sur le terrain, quelle place les médias consacrent-ils à cette actualité, quel rôle pour les radios, premier média du Mali. Il faut le préciser, la radio au Mali, c'est un média plus écouté que n'est regardé la télévision au Mali, ce qui n'est pas du tout le cas en France.
Évidemment, la radio est vraiment très écoutée. C'est comme je viens de le dire, nous, chez nous, au Mali, les radios sont écoutées plus en langue locale, qui est le Bamanankan, que tout le monde comprend. Et qu'à partir de ces mots parlés en Bamana, le message passe facilement. Mais on remarque que tout dernièrement, on a eu un problème du côté de la communication parce qu'ils n'arrivent pas vraiment à nous donner le temps de dire ce qu'on pense de cette situation. Et compte tenu de cette situation-là, il y a eu pas mal de journalistes qui ont été tabassés. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mmh. Et on a vraiment subi vraiment des moments atroces vraiment de ce côté-là. Et du coup, mais quand même, voilà, on tient toujours la marche parce qu'on veut toujours donner vraiment la bonne information et pour que les gens ils sachent ce qui se passe réellement au Mali. Il y a un problème qui est là, il faut vraiment le dire et c'est ensemble, moi je pense qu'on peut la régler. Et quand on dit un peuple, un but, une foi, c'est vraiment aller tout droit à la sortie de la crise. Et il est important vraiment de dire ce qui ne va pas, il ne faut pas vraiment le cacher, quoi. Hein? Voilà. Mmh. Mmh. Et du coup, nous, on compte sur tout le monde, les pays voisins, on compte sur la CDAO pour que vraiment la CDAO envoie ses troupes pour qu'il y ait vraiment une coalition, une solidarité au sein de l'armée malienne et avec les gars de la CDAO pour vraiment libérer le Nord parce qu'on en a besoin. Et on nous impose la charia. Il y a des gens vraiment qui vivent vraiment dans des difficultés et... Voilà, vraiment, on veut vraiment pas ça parce que c'est un pays laïque. Il y a des gens qui sont là, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Il faut leur donner la liberté. C'est important. Hein? Et on peut pas venir imposer quelqu'un à une religion qu'il n'aime pas. Mmh. Hein? Mmh. Et donc là, nous, on vient pour vraiment dénoncer ça, donner la libre expression aux gens vraiment de dire ce qu'ils en pensent. Hein? Et puis bon, voilà, avancer, quoi. Comme on le faisait avant.
Alors par rapport justement aux radios, alors je précise aussi qu'au cours de cette émission, on pourra aussi écouter de la musique, puisque le Mali sera encore à l'honneur ce samedi 3 novembre sur la scène du Jam, 100 rue Ferdinand de Lesseps à Montpellier, avec un concert de Astan Kida, la perle du mandingue, une véritable institution à Bamako et au Mali, descendante d'une grande famille de griots qui s'est rapidement imposée à travers sa musique par sa générosité et son très fort engagement pour les droits des femmes et des enfants en Afrique, notamment par ses émissions musicales sur Africable, qui j'imagine est une chaîne de télévision.
Ouais, une chaîne panafricaine, hein, qui est vraiment suivie un peu partout. et qui a une référence africaine.
Voilà, Astan Kida qui sera accompagnée, elle-même est chanteuse, par la guitare lead de Jacob Soubeiga, la guitare basse de Issa Ouattara, Bastos en accompagnement guitare, Khalifa Emma au djembé balafon, Thomas Vallée, local de l'étape au saxophone et la flûte Peul, et puis Segasek à la batterie, du beau monde. Et puis ils étaient venus faire un petit live capté par Simon Mourin qui réalise cette émission et que l'on salue, qui n'hésite pas aussi à prendre le mic s'il veut. Et puis toi-même, ben, tu es outre animateur radio, tu es aussi rappeur. Tu nous avais fait l'honneur d'intervenir aussi lors de la fête de la musique en 2010.
Yes, I...
en début de soirée de ce 21 juin 2010.
Ouais.
Donc on aura l'occasion aussi d'avoir un petit live de toi-même. Mais peut-être pour revenir en attendant nos amis de l'association Envie, sur la place des radios, là on l'a dit, c'est une place très importante, peut-être plus importante qu'en France, même si c'est vrai qu'en France aussi, si on compare les 680 radios associatives aux quelques têtes de réseau des radios et télé, bah, on est quand même plus nombreux. Mais c'est vrai que par rapport aux événements qu'il y a eu au Mali, c'est vrai qu'il y avait certaines stations de radio qui étaient plus ou moins apparentées à des partis politiques ou à des radios un petit peu grosses, un petit peu des radios un petit peu friquées, quoi, qui elles ont connu des problèmes plus rapidement que les radios plus citoyennes, plus proches des gens. Mais malgré tout, même dans le sud, il y a eu des pressions, parce que Thiemoko nous avait tenu au courant de tous les problèmes qu'il y avait dans le nord, avec des radios qui pouvaient carrément plus émettre, où les locaux avaient été saisis, où on pouvait plus diffuser de la musique, etc. Donc des gens qui sont partis, qui ont déserté leur radio, qui sont arrivés à Bamako et qui sont devenus des nouveaux animateurs de certaines stations à Bamako. Mais même dans le sud Mali, qui est plus ou moins préservé de la charia encore aujourd'hui, il y a eu quand même des troubles autour de cette question du média.
Évidemment, ouais, il y a eu des troubles. Et franchement, moi, ça me fait rire. Et au nord, c'est vrai, il y a des gars vraiment qui sont là, qui animent, qui font très bien leur boulot. Et d'autres sont restés, hein. C'est vrai que d'autres ont désacté, mais d'autres sont restés parce qu'ils n'ont pas vraiment été d'accord avec vraiment la charia. Mais c'est vrai qu'ils venaient, ils les forçaient à donner des informations, hein, à donner des informations à la population, et certains animateurs refusent. Et quand ils refusent, on les tabasse, tu vois. Et il y a eu pas mal d'animateurs qui ont refusé, et voilà, mais qui ont refusé carrément vraiment de dire ces informations-là. Mm-hmm. Et il y a d'autres qui sont restés précis, je vais dire, précis à leur boulot. Ils font pas, quoi.
Mm-hmm.
Voilà. Et quand même, il y a des gars qui ont été frappés et tout, et tout, et tout. Et voilà, mais quand même, ils sont là. Et vraiment, moi, j'encourage ces personnes-là, même si voilà, ils ont risqué leur vie à ne pas dénoncer ce que les rebelles ont dit de dénoncer. Et c'est vraiment important de tirer chapeau, hein, à ces personnes-là. C'est vraiment un risque. Il faut faire un choix.
C'est leur vie qui risque, hein.
Mais voilà, ils ont fait un choix, parce que le métier du média, c'est la vérité, quoi. On peut pas vraiment dire à des gens de n'importe quoi. On se sent pas là-dedans, quoi. Et donc vraiment, il faut vraiment tirer chapeau à ces gars-là, quoi. Même si vraiment ils ont risqué, mais voilà, c'est pour la bonne cause, c'est pour la bonne marche. Et moi, je pense que voilà, c'est noble. Mais au sein de Bamako, c'est vrai, nous, on a vécu ça, parce que toutes les radios étaient à l'écoute. Les militaires nous écoutaient, du matin comme au soir. Ils écoutaient les paroles de tout et chacun. Et si tu dérailles, man, là, tu vas te faire prendre par des militaires et te faire tabasser. Et donc, on a fait une journée sans animer de grève. On a marché parce qu'on avait marre vraiment de ce système-là. Et on ne nous donne pas vraiment, c'est-à-dire la liberté vraiment de mieux nous exprimer vis-à-vis de cette situation-là. Et donc, même à présent, on est confronté à cette situation. Hein? C'est vrai qu'ils ne sont pas encore arrivés sur Bamako, mais on a des échos. C'est vrai que c'est des rumeurs. On a des échos qui disent que non, ils sont là en civil, hein, parce qu'on ne sait pas qui est qui. Raison pour laquelle je dis, à tout moment, ça peut se déclencher. Ils ont lancé un assaut, ils disent qu'à tout moment, ils peuvent arriver sur Bamako. Et donc, quand c'est comme ça, il faut vraiment s'asseoir et s'entendre à tout. parce que ça peut déclencher à tout moment. On n'est pas dans la sécurité, ça c'est clair.
Oui, c'est clair, parce que vu l'étendue du Normalie et le fait qu'il soit frontalier avec plusieurs pays, c'est un très grand territoire et ça fait 6 mois que les groupes armés djihadistes ou islamistes, appelons-les les 3 principales formations qui occupent un petit peu le territoire, ont eu le temps en 6 mois de s'armer, d'avoir beaucoup d'argent, hein,
puisqu'on
recrute des jeunes adolescents on leur donne de l'argent, et cet argent, on sait que en ce qui concerne Al-Qaïda notamment, il vient du trafic de drogue, trafic d'armes, etc. Ouais. Donc face à cette situation, c'est vrai que 6 mois, c'est très long, et ça permet déjà d'occuper le territoire, de commettre des exactions et des crimes. Ça on le voit dans la presse nationale, mais ce qu'on voit moins, c'est sans doute finalement le travail de fond qui est mené par ces groupes pour endoctriner, pour distribuer de la propagande, et puis pour forcer, finalement, enrôler de force des gens qui vont peut-être se dire on me donne de l'argent, je vais faire ça. On pouvait lire dans divers articles des gens qui se faisaient arrêter par leur ancien voisin ou le fils de leur ancien voisin qui pour sauver sa peau aussi avait dit ok, je veux bien m'enrôler dans le groupe, et là 6 mois ça commence à faire vraiment long, donc l'urgence d'une solution
elle est là franchement, parce que ils sont vraiment en train de s'abriter, ils s'apprêtent à fond, parce qu'ils sont confiants, il faut dire, ils sont confiants, parce qu'ils sont vraiment armés, ils sont confiants, ils n'ont pas peur de quelqu'un, ils sont prêts à affronter qui que ce soit, parce que là, ils l'ont dit, ils l'ont annoncé, ils sont venus avec le la ilaha illallah, et donc rien ne peut les arrêter, même la mort, tu vois, parce que eux, ils se battent avec ça, avec la foi, et donc ils sont vraiment vraiment au top, c'est comme tu viens de le dire, parce que là, ils ont une technique au moment où le gouvernement s'apprête peut-être à répliquer. Ils disent, les gars, on veut vraiment discuter, on veut vraiment dialoguer, trouver une solution. Mais pendant ce temps-là, les gars, ils sont vraiment en train de s'apprêter, quoi. Et moi, je pense qu'il ne faut pas vraiment donner cette occasion-là. Il faut vraiment battre le fait quand il est chaud, et il faut vraiment aller sur le terrain. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que la population ne savent pas ce qu'elle veut. Hein? On a tendance à comprendre une partie de la population qui est contre la CEDEAO et une partie qui veut que la CEDEAO vienne, c'est-à-dire en appui avec les soldats maliens pour vraiment conquérir le Nord. Et là, franchement, il y a vraiment des polémiques là, mais je pense que la CEDEAO va intervenir, ça c'est clair. Donc là, on demande rapidement vraiment l'aide de la communauté internationale, vraiment de nous aider dans ce sens-là, à aller tout droit, et dégager ça, quoi.
Est-ce que les disputes qu'il y avait entre différents corps de l'armée malienne ont été résolues, puisque le putsch avait été mené par le capitaine Sanogo?
Oui.
Et puis quelques semaines plus tard, il y avait la garde, les bérets rouges.
Qui
s'étaient opposés finalement. Est-ce que ces fractions sont résolues? Parce que c'est vrai que pour que la CEDEAO puisse amener des hommes, pour qu'une coordination internationale puisse accompagner l'armée malienne pour intervenir au nord, il faudrait déjà que les dissensions soient soudées.
Ça s'est réglé, ça s'est réglé parce que il fallait ça parce que les femmes des bérets rouges étaient vraiment dans la galère, donc ça n'allait pas, elles ne recevaient pas vraiment le salaire de leur mari par mois, et donc la vie devenait dure pour elles, et elles ont pris une journée de marche, elles ont marché, elles ont contesté, elles ont revendiqué le droit et tout, et donc du coup, je pense que il y a eu vraiment un arrangement,
une unité, finalement.
Voilà, de ce côté-là. Donc l'armée malienne est soudée. Ça vraiment,
ça c'est
une très bonne nouvelle, parce que là ils sont soudés, et on attend maintenant à ce que il y ait vraiment du matos, c'est-à-dire du matériel pour que nos soldats puissent vraiment faire face à la situation, parce qu'il y a eu trop de gars qui ont déserté, quoi, tu vois, et il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais on peut pas tout le dire, mais tout ce que nous on demande, c'est vraiment de l'aide. Il faut vraiment appuyer les soldats maliens pour que vraiment la confiance leur revienne encore, parce que c'est pas facile du tout à aller sur un terrain que vous ne maîtrisez pas. C'est le désert, il n'y a pas de forêt, man. C'est le désert, man. Donc là, c'est... c'est vraiment difficile, quoi. Donc, on demande de l'aide à tout le monde, vraiment un soutien moral surtout, et pour vraiment encourager nos soldats maliens à aller sur le terrain.
Et pour l'heure, eh bien, on va... Simon me fait un signe, on va envoyer une petite pause musicale, peut-être, Simon, que tu nous présentes. Saisis le mic, Simon.
Oui, c'est parti. Salut, Jazz.
Yes.
Du coup, non, comme tu en as parlé tout à l'heure, c'est un extrait en live dans les studios qui s'est déroulé, attendez si j'arrive, le 30 juin. Donc ça remonte un petit peu à l'occasion de la première tournée d'Astan Kida et de ses musiciens dans notre si belle région. Donc,
et tu les avais attrapés avec ton filet à papillon.
Attrapés, interview, musique en live dans les studios. Et là, c'est un petit extrait qu'on va s'écouter. Je crois que le morceau, le morceau s'appelle Kiliye.
Ajafaso kamalamam gomne Iye faso de nuna kamalema Burukina na kamalema Wena kop chele una panga Kamba fampa mulafi wena kof chele mlapanga tu siriba fampa mulafi kililia ea kililia ea kililia Ajafaso kamalamam gomne Ajafaso kamalamam gomne Iye faso de nuna kamalema Farafi nuna kamalema Wena kof chele mna panga Tufu kamba fampa mlafi Wena kof Chele unapanga tufu siriba fampa mlavi Kililia ye ye ha Kililia ye ye ha Kililia ye ye ha
Africa
ramba faiki Senegal ramba faiki Burkina ramba faiki Ivoire ramba faiki Mali ramba faiki Awoto, achenge, achenge, ayashama, awoto, 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 awoto.
c'est le samedi et c'est le samedi 3 novembre au Jam que vous pourrez voir Astan Kida sur la scène du Jam, donc rue Ferdinand Lesseps à Montpellier, qui était là enregistré par Simon Morin il y a quelques jours dans les studios de Divergence.